Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à tous. En ce dimanche 1er novembre, vous ne serez pas vraiment surpris que nous vous parlions de la mort, mais vous allez l'entendre sous un regard différent. Un angle, j'allais dire, en langage journalistique nouveau avec nos deux invités, Damien Le Guay et Jean-Philippe de Tonnac, qui publient chez Albin Michel Les Morts de notre vie. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'allais dire que vous êtes un peu des spécialistes de la mort, même si vous l'écrivez dans le livre qu'il n'y a pas de docteur S-mort, mais vous avez beaucoup écrit sur la mort. Damien Le Guay, vous avez écrit « Qu'avons-nous perdu en perdant la mort ?» C'est en 2003, édition du Cerf. « La mort en cendres » et puis « Le fin mot de la vie ». Et vous, Jean-Philippe de Tonnac, eh bien, vous avez participé à un travail collectif, La mort et l'immortalité, n'est-ce pas ?
Voilà, j'ai dirigé un travail avec Frédéric Lenoir sur la mort et l'immortalité dans les cultures.
Alors, vous avez donc beaucoup travaillé sur ces sujets, comment nos sociétés parlent ou ne parlent pas de la mort, en quoi la mort est un tabou dans nos sociétés, les différentes évolutions des pratiques funéraires, notamment la crémation. Et là, aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau. C'est comment vivons-nous nos rapports avec nos morts ? Alors, pourquoi cette idée ? Parce que ça s'impose d'une certaine façon, mais finalement, on apprend qu'il faut savoir parler à nos morts. Damien Le Guay.
Non, je crois que nous vivons malheureusement sous le régime du tabou de la mort, du non-dit, de ce qui ne doit pas ni s'exprimer, ni se dire, ni se manifester. Et il nous a semblé, Jean-Philippe et moi, qu'il importait d'aller voir des sages, des gens connus, qui pourraient librement dire ce qu'il en était de cette proximité qu'ils ont avec leur propre mort et cette nécessité qui est la leur de pouvoir commercer avec tous ceux qui nous ont précédés.
Alors effectivement, je donnais donc le thème de ce livre, Les morts de notre vie, comment vivons-nous nos liens avec nos morts. Ce sont 7 témoignages, Juliette Binoche, Christian Bobin, Catherine Clément, Philippe Labro, Daniel Mesguich, Edgar Morin, Amélie Nothomb. Donc, des intellectuels, des écrivains, des anthropologues, des philosophes, des artistes. J'allais dire, bon, même si ce mot est un peu valise, des people, mais bon, qui sont bien d'autres que des people.
C'était à la fois, et c'est ça qui nous a frappé avec Jean-Philippe, c'est qu'à la fois des people, comme vous dites, des gens connus, et en même temps, quand ils nous ont reçus, quand ils ont accepté d'ouvrir la malle de leurs souvenirs, de leur cœur, de leur mémoire, des personnes, comme tout le monde, qui sont confrontées à cette difficulté extraordinaire de faire avec leur propre mort.
Jean-Philippe de Tonnac.
Oui, on les a choisis parce qu'on savait que les uns et les autres avaient traversé des drames, vécu, comme Philippe Labro, une expérience de mort imminente, et qu'ils comprenaient l'intérêt de parler de ce sujet. On les a pas forcés. Il y avait là 7 avocats, on allait se servir de leur notoriété pour parler d'un sujet tabou, d'un sujet interdit. Donc on comptait sur eux pour faire rayonner ce sujet qui nous appartient à tous. Et donc ça n'est pas Amélie Notons que nous rencontrons, ça n'est pas Edgar Morin, spécialiste du sujet, qui a publié un grand livre sur de sociologie, d'anthropologie sur la relation de l'homme et de la mort.
Il a non, défriché même dans les années 50.
Voilà, mais oui. Là, le spécialiste s'est mis de côté et c'est l'homme qui nous a raconté sa vie, les malheurs de sa vie, les bonheurs de sa vie autour des 3 questions que nous venions lui poser. Donc effectivement, ce sont des gens qui ont une certaine notoriété, mais qui sont n'importe qui quand on vient les rencontrer.
Et d'ailleurs, ce qui est très net, Damien Le Guay, c'est les situation de la rencontre. Quand vous rencontrez Amélie Nothomb dans les locaux d'Albin Michel, c'est une femme qui vous accueille. Alors, c'est pas la femme que l'on connaît, sans chapeau, et de façon extrêmement simple, extrêmement naturelle.
Si vous voulez, ce qui nous a frappé, c'est le désarroi de toutes ces personnes qu'on a rencontrées. Désarroi parce que personne ne sait vraiment comment faire avec cela. Et que, plutôt que de prendre la pause, que de s'installer dans le personnage qui est le leur, et en particulier Amélie Nothomb, chacun est revenu à l'essentiel, à cette nudité originelle qui est celle qu'ils éprouvent chacun face à la mort et à leur propre mort. Et donc, on a été effectivement impressionnés, Jean-Philippe et moi, par cette simplicité de toutes ces personnes qui pouvaient se prévaloir de leur notoriété, de leur connaissance, de leur livre, de tout ce que vous voulez.
De leur succès, bien sûr.
De leur succès, etc.
Oui.
Et puis, entre guillemets, jouer quelque chose, ou jouer un personnage, en particulier Amélie Nothomb, qui sait le faire par ailleurs. Et là, on a été surpris de voir qu'il n'y avait en face de nous que des personnes confrontées à cette difficulté inouïe qui est de faire avec ses propres morts et donc de retrouver une familiarité perdue.
Alors, Jean-Philippe de Tonnac, effectivement, Amélie Nothomb, par exemple, confie cette angoisse quotidienne qu'elle a de perdre ses parents, de perdre sa sœur, qu'elle aime énormément. Et dans le même temps, c'est là où le livre vraiment ouvre des perspectives, j'allais dire d'espérance, c'est qu'elle a connu un grand amour qu'elle a perdu en 1996. C'est une relation qui a duré 4 ans. Elle savait qu'en la commençant, elle perdrait ce grand amour.
Absolument.
Elle a mis simplement un mois pour faire ce deuil. Et finalement, de ce deuil, elle a fait quelque chose d'extrêmement fécond.
Oui, alors elle s'en excuse presque d'avoir fait ce deuil qui n'a duré qu'un mois, comme il s'agissait probablement de l'amour de sa vie, enfin jusqu'à ce jour. En tous les cas, quelqu'un qui disparaît en 96 et qui est aujourd'hui présent dans son quotidien, qui est là pour répondre à ses questions. On a l'impression, si on force un peu l'entretien, qu'il est là, qu'il est présent, entre guillemets, dans sa vie et que c'est le compagnon de tous les jours. De tous ces jours. C'était assez bouleversant, cet entretien avec elle. Vous savez, il y a un tout petit bureau. Elle est la seule à avoir un bureau chez Albin Michel et probablement dans toute l'édition française. Elle est le seul auteur qui a, contre aucun service rendu à l'éditeur, elle a un bureau dans lequel s'amoncellent les correspondances de ses lecteurs, innombrables, les traductions, et donc on est dans une pièce extrêmement étrange. Et elle est arrivée défaite par le sujet qu'elle allait aborder. On sentait qu'elle est venue avec le drame au ventre. Et c'était comme la plupart de ses entretiens, aucune affectation. La possibilité de se confier à des inconnus que nous étions, nous ne les connaissions pas. En 10 minutes, on branchait les smartphones qui nous servent à enregistrer, et la parole venait du cœur de leur tristesse, de leur bonheur, de leur vie.
Il y a une très grande authenticité dans cette interview qui, personnellement, m'a beaucoup marqué.
Voilà.
Damien Le Guen.
Sur Amélie Nothomb, il faut dire 2 choses. La première, vous avez raison. Elle dit effectivement qu'en un mois, la chose s'est faite. Et en même temps, quand elle dit « je le sens en moi », quand elle dit que ce mort-là lui parle, qu'elle a un commerce constant avec lui, qu'elle le consulte, qu'il lui donne des avis, on se dit que c'est un deuil qui à la fois peut-être n'a duré qu'un mois et en même temps qui n'en finit jamais. Et que donc, plutôt que de le quitter, elle a réussi à trouver les voies et moyens d'une conversation, d'une consultation, d'une intimité avec cette personne, plus avec plus d'autres, qui effectivement est époustouflant. On voit bien que quelque chose se passe au-delà de la mort, qu'une conversation continue au-delà de la fin de la vie, et qu'il y a une vie autre, une conversation autre, un amour autre, qui existe toujours et dont elle rencontre avec une sincérité époustouflante.
Et une grande justesse. Moi, j'ai beaucoup aimé ce verbe. Elle dit « réussir son deuil ». Parce que beaucoup, on parle souvent de faire son deuil. Bon, un mot, qui est discutable d'ailleurs. Hein.
Oui.
Mais réussir son deuil, ça, c'est quand même, j'allais presque dire positif, non?
Ah oui,
Jean-Philippe
mais
de Tonnac.
Il faut rappeler que le faire son deuil, enfin que la ritualité, c'est la possibilité de faire naître 2 personnes. Le mort doit poursuivre son chemin d'une manière différente puisqu'il va nous habiter. Donc le mort est renaissant dans l'épisode du deuil. Et puis celui qui vient de perdre une partie essentielle de sa vie, il doit aussi renaître à cette postérité-là. Donc il y a 2 personnes, le mort et le vivant, qui renaissent à travers ce qu'on appelle faire son deuil. Donc, ce que les modernes pensent pouvoir être fait en quelques minutes, on se rend aux funérailles et puis on pense à autre chose. En réalité, les traditions, les ancêtres nous ont expliqué que le travail de deuil, ce sont des mois au cours desquels on travaille la séparation. On a vécu dans une intimité avec ces gens qu'on perd. Comment vivre sans eux? Comment les morts vont vivre sans nous aussi? Et donc c'est ça que nous apprenons dans le travail du deuil, c'est cette séparation impossible, elle est inconcevable. Donc voilà, Amélie Nothomb nous rend compte d'un amour passionnel qu'elle réussit à réinventer au bout d'un mois de deuil intense, où elle pense traverser sa propre mort, et elle en ressort nouvelle, et probablement qu'elle lui a permis à lui, ce grand amour, de vivre une nouvelle vie dans cette nouvelle relation qu'elle a avec lui.
Alors, quand vous dites cela, ça veut dire que vous avez foi, ou qu'elle a foi, effectivement, en un au-delà. C'est très net. De toute façon, elle se dit quand même catholique, globalement, hein, en tout cas de culture catholique.
Oui, il y a quelque chose qui est très troublant, c'est qu'elle se pose la question de la voix VOX de celui qu'elle aime, qui est encore là. S'il y a voix, il y a donc une espèce d'incarnation. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une voix s'il n'y avait plus de corps, de présence? Et c'est une question qui revient assez souvent souvent dans les entretiens. Il y a Philippe Labraud, le grand journaliste, l'homme de radio, qui, à la mort de ses parents, réalise qu'il n'a pas enregistré la voix de ses parents et qui, évidemment, en éprouve d'immenses regrets. Mmh. Et il y a encore cette remarque de Christian Bobin qui nous dit que le jour de la mort de son grand-père, sa mère lui dit qu'autour du corps de son grand-père, il ne faut rien dire de négatif parce que l'ouïe est le dernier sens qui s'éteint.
Il y a une expérience quand même dont il faut parler à propos d'Amélie Nothomb, c'est cette expérience qu'elle va faire en Amazonie. Mmh. Elle va aller en Amazonie, s'initier alors à l'ayahuasca, c'est une sorte de breuvage que l'on prend et puis qui vous conduit à entrer en contact, mmh, semble-t-il, avec vos disparus.
Alors, juste pour rebondir sur ce que vous disiez préalablement, je ne sais pas si elle a la foi. Ce que je crois, c'est que tous les témoignages, et elle en particulier, disent, et les Français le pensent, qu'il y a un au-delà. Lequel, comment, de quelle manière, comment rentrer en contact avec lui, c'est un mystère. Mais il y a un au-delà. Et on en revient, me semble-t-il, à la question de la religion des morts. La religion des morts qui est avant toutes les religions. Ce contact, ce commerce que l'on a avec les morts, c'est la religion avant toutes les religions. Religion, reliée, religarée, c'est bien
la
ça.
La religion première.
La religion, oui, première, la religion avant toutes les religions. Et cette religion des morts, elle est bien présente là. Alors effectivement, en 2012, elle va en Amazonie, elle prend ce breuvage un peu bizarroïde et, dit-elle, elle entre en contact avec l'invisible. Et elle a le sentiment vrai, enfin, c'est ce qu'elle dit, qu'une force lui parle. Elle voit des esprits et elle entre en contact à la fois avec les mauvais morts et à la fois avec les bons. Et que cette expérience-là, qui est une expérience
paranormale,
je ne sais pas, paranormale, de mystique brute, de brutalité mystique, que vous voulez.
Hallucinogène aussi ou pas? On peut se poser la question.
Hallucinogène
quand même.
Pour partie, parce que, ouais, parce qu'elle prend des substances qui le, oui, sont. Mais vous savez, c'est toujours comme cela. Je veux dire, c'est ça l'origine de l'alcool, c'est ça l'origine des drogues, c'est l'accès à un autre monde. Le monde qui est là, autour de nous, et qui n'est pas visible. Et donc, elle fait cette expérience-là d'un au-delà qui n'est pas ordonné, qui n'a pas de forme prédéfinie, qui n'entre pas dans le cadre d'une religion particulière, mais qui est bien ce monde de l'au-delà dans lequel habitent effectivement les morts, les bons et les mauvais, et vis-à-vis duquel elle essaye de faire sa place, de trouver sa place, de n'être pas trop dérangée par les mauvais morts et d'être accompagnée autant que faire se peut par les bons qui la guident de bonne manière.
Alors l'histoire de son bon mort et de son mauvais mort, le bon mort, bon, c'est son grand amour,
oui,
le mauvais mort c'est quelqu'un qui lui a été très néfaste, semble-t-il, sa grand-mère, et qui continue le travail, si je puis dire.
Exactement.
Qui continue à lui polluer l'existence. Alors comment prendre ça?
Elle a dit que si l'amour ne s'arrête pas, la haine non plus.
C'est un peu l'échec, si je puis dire, de l'au-delà, non?
Alors, c'est ce qu'autrefois, au Moyen-Âge, on appelait la malmort. C'était donc, oui, soit des morts qui étaient morts sans sépulture parce qu'on n'avait pas retrouvé leur, oui, corps. C'était aussi des morts qu'on n'avait pas honorés suffisamment. Donc, il y avait des malversations dans la relation des vivants et des morts. Et donc, les morts étaient là pour protester. Donc, ces mauvais morts, c'est ceux à qui on n'a pas rendu les hommages, mmh, qui leur sont dus.
C'est-à-dire que soit on croit, et je pense que les Français, quand on les interroge là-dessus, ils croient vraiment. Soit on croit qu'il y a un monde des morts, un au-delà de la vie, qui n'a pas, comme je le disais préalablement, une forme aussi définie que ce que les religions ont pu donner. Les gens s'y reconnaissent pour partie, puis pour partie pas, et pour partie, ils pensent qu'il y a quelque chose qui est un peu anarchique, au sens propre du terme, qui n'a pas de principe et de forme particulièrement définie. Mais dans ce monde-là, dans ce monde dans lequel entre Amélie Nothomb par ses substances et par le commerce qu'elle a, il y a effectivement les morts. Et les morts, comme le dit Jean-Philippe, c'est à la fois, toutes les civilisations et toutes les humanités ont cru et croient à cela, à la fois les bons et à la fois les mauvais. À la fois ceux qui viennent vous tirer par les pieds, ceux qui viennent vous chatouiller, ceux qui viennent vous embêter, ceux qui viennent vous perturber, ceux qui viennent... Et les psychanalystes disent ça quand ils disent qu'il y a des fantômes de mémoire qui viennent hanter les vivants. Et en même temps, il y a les ondes positives, les morts positifs, ceux qui vous poussent vers le haut, vers le plus, vers le mieux, alors que les autres vous poussent plutôt vers le mauvais, le mal, la destruction. Et la grande leçon d'Amélie Nothomb, me semble-t-il, c'est cela, c'est de dire que, un, il y a Et les Français le croient. Alors après, on peut trouver que ça prend des formes bizarres chez elles, ce qui est peut-être. Mais qu'il y a effectivement ce monde de l'au-delà qui est le monde des morts, et qui est une présence, qui n'est pas juste une mémoire, qui est une présence, voilà, et ce commerce qui permet d'établir un lien, une reliaison, enfin, donc une religion avec ce monde-là qui a son côté positif et son côté négatif.
Alors Damien Le Guay, Jean-Philippe de Tonnac, on va passer un peu aux autres, on va pas rester absolument que sur Amélie Nothomb, même si effectivement il y aurait beaucoup à dire sur son témoignage, qui est un témoignage extrêmement authentique. Alors il y a Edgar Morin, bien sûr, le grand Edgar Morin, qui a aujourd'hui 94 ans, qui lui a été confronté très tôt avec la mort, puisqu'il perd sa mère jeune, et puis après il y a ses amis résistants qui vont périr sous les balles nazies, etc. Mais lui, sa première expérience est celle de la mort de sa mère, et là, avec évidemment une expérience très douloureuse, puisqu'on lui cache la mort de sa mère, donc il en voudra beaucoup, beaucoup à son père. Jean-Philippe Tonnac.
Oui, effectivement. Donc c'est le souvenir déterminant qui va orienter sa vie intime, sa vie intellectuelle. Il a 10 ans, son père lui fait croire que sa mère est partie pour un long voyage, en cure thermale, etc. Et ne veut pas lui dire la vérité, c'est que sa mère, qui s'appelait Luna, a disparu et morte.
Luna, Lune ?
Voilà. Ouais. Il est écarté des funérailles, il se rend compte à la manière dont son père est vêtu, dont son père lui parle, qu'il s'est passé quelque chose d'effroyable. Et puis un enfant sait toujours tout, donc il a compris. Et il va en vouloir d'une façon durable à ce père qu'il aime profondément, mais qui lui a caché cet événement. Il est privé de sa mère, mais il est privé de la mort de sa mère. Donc il en veut doublement au destin et à son père qui a participé de cette captation. Il va mettre des années à digérer l'indigérable. Et il va se passer en 1969, il est invité en Californie, il fait un rêve, la veille du jour où son père, avec sa tante, parce que son père s'est remarié avec la sœur de sa mère.
C'est pas simple non plus.
C'est pas très simple, et donc la veille de l'arrivée de son père, il fait un rêve qui lui permet de dire enfin adieu à sa mère, et d'accueillir son père avec bienveillance, et de se réconcilier avec son père. Vous imaginez l'histoire sur ces sommes de temps, parce que quand on a vécu 93 ans, ça se déploie.
Et ce qui est très très touchant, c'est que ça se passe, ce rêve, il y a la lune. Il lui dit au revoir dans son film, j'allais dire.
Et il n'a pas de lien particulier avec la tombe de sa mère, puisque au fond, cette mort lui a été ravie. Eh bien, il n'a pas de commerce avec cette sépulture. Par contre, les jours de pleine lune, il communie avec sa mère, et avec Luna.
Alors qu'il n'est pas, ça on le dira, il n'est pas croyant. Il regrette d'ailleurs de ne pas être croyant, mais bon.
Mais il est très ouvert.
Chez Edgar Morin, il est tellement ouvert, pas à la foi, mais aux religions, qu'on peut se poser la question quand même.
Absolument.
Damien Le Guay.
Non, la vraie leçon de tout cela, c'est que nous avons rencontré, et on a eu la chance de rencontrer Edgar Morin.
C'était le premier que nous avions
rencontré. Voilà, donc vous voyez un homme de 93 ans, qui a vécu tout ce qu'il a vécu, c'est-à-dire des drames abominables, et qui vous explique, avec au début un peu de trémolo dans la voix, et après, en pleurant, que 83 ans avant, quand il avait 10 ans, il n'a pas pu faire le deuil, il n'a pas pu avoir de chagrin, il n'était pas orphelin, même s'il l'était vraiment, parce que sa mère était là, était pas là.
Il pleurait dans son lit le soir.
Il pleurait dans son lit le soir, et il vous explique, un, que ce moment-là a été un Hiroshima intérieur, et qu'en même temps, ça a été l'élément fondamental, structurant de toute son existence.
Il n'y aurait pas eu d'Edgar Morin s'il n'y avait
exactement
pas eu ce drame.
Et que ce drame-là, qui est à la fois déstructurant au possible, l'a contraint, obligé, par esprit de reprendre le dessus. C'est un homme extrêmement vivant.
Il a plein de projets.
La vie est toujours plus forte que tout le reste. Et vous vous dites que si cet homme-là s'offre comme ça au lecteur et à nous, en livrant ce secret dont il a parlé, mais en considérant que ce secret-là, cette impossibilité-là est structurante, il me semble qu'il y a un effet libérateur pour tous ceux qui ont connu des situations comme celle-là, ou qui passent par des situations comme celle-là, ou qui sont dans des deuils impossibles, etc. Et que là, il y a quelque chose qui est extrêmement structurant, libérateur, et qui invite à la libération de la parole.
On se retrouve après le flash, maintenant place à l'info. Restez à l'écoute de RFI.